Un tango, une danse, un baiser.
Du bota, bébé, bébé. Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
La poésie, comme l'amour, risque tout sur des signes. C'est une citation fameuse du poète et philosophe Michel de Guy, et c'est un point de départ qui peut paraître assez lointain pour introduire l'émission de ce soir. Pourtant, Mélissa Lavaux, à lire le récit de l'enregistrement de votre dernier disque, il est difficile de penser que vous n'avez pas tout risqué sur des signes. Votre voyage en Haïti, quelques mots magiques du sculpteur Lionel Saint-Éloi vous poussant au travail, la mort de votre grand-mère à votre retour, les heures d'insomnie vous reliant cette fois votre mère à la lecture, à la nuit et peut-être même à quelques fantômes. Dans ce disque, vous prenez toutes les libertés nécessaires en relisant un certain patrimoine haïtien et vous composez ainsi, avec vos musiciens, un album empreint du mal du pays autant que de l'invention flamboyante. Bonsoir Mélissa Lavaux.
Bonsoir.
Toujours pareil avec vous, il y a autant de passé que de futur dans ce que vous faites.
Tout est cyclique.
Ça s'appelle Radio Seawell, c'est paru sur le label No Format. Bienvenue, merci beaucoup d'être là.
Merci.
Honor guest, distinguished earthlings on vocals and guitar tonight, Mélissa Lavaux. Live in Paris at Lama Key Studios. She's joined by on guitar Drew Gonzalez and the French band Albert. Vincent Toer on keys. Ludovic Bruni on bass. Melissa, by the way, is this chick even Haitian? I don't know. Is she singing voodoo songs? Voodoo. I can't tell. I'm Italian. I've never heard about these things before. But you know, I'm singing some Creole song by French guys and the dude from Trinidad. But what is this record? What? Radio Seawell? Radio Seawell? What does that even mean? What does that even mean?
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de chanter? Radio Seawell, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ce titre de disque? Vous disiez tout est cyclique, Mélissa Lavaux. On commence par la toute fin de ce disque qui devient le tout début de notre émission de radio. Peut-être pour parler de ce médium. À la fois c'est une blague, cette fin de chanson, on entend bien Mélissa Lavaux, et en même temps ça dit des choses de ce projet de disque.
En fait ça parle beaucoup de projets, il y a plein de trucs cachés. Parce que en fait... Vincent Torel, qui est le leader des Albert,
il m'a demandé, groupe de musiciens.
Qui est le groupe de musiciens qui ont réalisé, arrangé avec moi l'album. En fait, il m'a dit, il faut que tu composes un truc, il faut que tu écrives vraiment un truc, un sort de script pour Emilio. Et je me suis dit, dans ce script, je vais mettre toutes mes peurs par rapport à cet album. Genre, est-ce que cette fille est même haïtienne? Si ce qui vous écoutez vraiment bien. Et ça, c'était ma plus grande peur.
Emilio, c'est donc celui qui joue le présentateur radio à l'ancienne et qui était le stagiaire
le MC,
technicien.
Exactement, le MC qui est un stagiaire qui vient d'Angleterre et qui assistait juste avec la prod de l'album et il trouvait ça tellement particulier qu'on a dit bah, vas-y mets-toi dessus et du coup je lui ai fait par sa bouche, je fais passer toutes mes peurs par rapport à cet album, notamment la plus grande peur, c'est est-ce que cette fille est vraiment haïtienne? Est-ce qu'elle elle est vraiment légitime à faire cet album? Et après ça, il y a cette autre peur où est-ce qu'elle est légitime de faire cet album avec des Français d'abord, la France étant le grand ennemi d'Haïti. Non, mais aussi, surtout, genre, c'est l'empire qu'on a battu, qu'on a vaincu en 1804. Et du coup, c'est pourquoi le faire en France? C'est parce que j'habite ici. Pourquoi est-ce qu'on chante du charabia? Et puis c'est vrai qu'il y a des albums, il y a certaines chansons où j'ai songé, je me suis dit j'arrive pas à trouver le texte. Peut-être que je vais juste chanter en yaourt. Et finalement, je me suis mis à composer à bric-à-brac sur du texte, où j'ai vraiment trouvé le texte, mais j'arrivais pas à trouver la musique. Et puis du coup, je me suis mis à rajouter de la musique, où je m'imaginais en fait que ça aurait pu être comme ça. Et donc, ça parle de la composition de cet album qui a été un peu un casse-tête, où j'ai un peu forcé des pièces ensemble.
À cette question-là, est-ce que cette fille est vraiment haïtienne? Est-ce que vous êtes tenue de répondre?
Je pense que je suis la seule qui peut répondre vraiment à cette question, et je me pose toujours cette question, et je pense que oui, effectivement, je suis haïtienne, et autant que il y a plus de Ghanéens qui pensent que je suis ghanéenne que d'haïtiens qui croient que je suis haïtienne, mais je me sens haïtienne par la manière dont j'ai été élevée, par la manière dont je compose, la manière dont j'ai à réagir au monde, et pour moi c'est tout à fait naturel de me poser les questions. Du coup, je serai toujours en questionnement, je vais toujours me reposer cette question, parce que je suis pas quelqu'un qui change, qui, et mon identité change avec par rapport à où je me situe, et mon haïtienneté aussi elle change, et je trouve que le plus loin que je pars, le plus que je retourne sur Haïti, et du coup ça évolue.
Cette introduction en forme de speech radio, c'est aussi pour parler de la manière dont ce disque il a été enregistré, presque comme de la radio en direct. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi tous ensemble d'être sur une économie de temps si petite?
C'était l'économie financière qui a été imposée par la maison de disques. Et après ça, c'était pour moi... En particulier, je trouvais que c'était intéressant quand on m'a proposé ça, parce que les chansons, ce sont des comptines, ce sont des ritournelles, et du coup, on peut trouver une certaine redondance dans des patterns assez simples. Et je voulais avoir quelque chose qui... On peut jouer en live quelque chose qui se répète pendant 10-15 minutes, tant que ça groove. Et du coup, je me disais, ok, si on arrive à atteindre ce niveau de groove en live, ce sera tellement plus intéressant que si on enregistre un truc super lisse, super clean, où on coupe et on rapièce pour avoir la bande parfaite du morceau. Parce que du coup, ça s'entendra que ça sera trop propre, et ça sera pas nécessairement inécoutable, mais inintéressant. Et je me souviens surtout de cette interview avec Feist dans un livre sur comment écrire la parfaite chanson de pop. Et Leslie Feist, chanteuse canadienne dont je suis grande, musicalement amoureuse, elle dit, en fait, elle a compris que c'est les petites erreurs qui font en sorte qu'on devient accro à des chansons. Du coup, c'est le fait que les chansons, elles sont à la fois très très familières, et là, il y a une sorte de mémoire la manière dont le cerveau il fonctionne, c'est que le cerveau il prend plaisir à revivre ce moment de découverte, de la surprise qui est cachée dans le familier. Et c'est un peu comme manger des chips, en fait. C'est pour ça que les chips sont accro.
Découvre à chaque fois l'alliance entre le gras et le sel, par exemple.
Non, c'est apparemment quand on mange des frites, c'est la sensation de l'écoulement des gouttes d'huile dans la gorge, la manière dont elle coule tranquillement dans la gorge quand on croque une frite, en fait. Ça, c'est tellement plaisant que le cerveau, il aime bien le revivre. C'est pas nécessairement le goût de la frite ou ça. C'est tellement bête, mais c'est ça. Et je dis, en fait, c'est comme la musique. Moi, j'associe tout le temps la musique avec la nourriture.
Donc, vous cherchez à faire des morceaux frites?
Des morceaux frites, ouais. Mais avec, sans huile de palme.
Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ces 5 jours-là qui venaient cristalliser tout le travail, mais aussi tout un chemin intime, tout un chemin musical vers ces chansons haïtiennes? Et d'un seul coup, vous étiez dans un studio avec des musiciens, c'est-à-dire finalement assez loin de l'endroit d'où viennent ces morceaux.
Un sentiment d'urgence, un grand sentiment d'urgence, parce que ça fait 8 ans que ce projet me trotte dans la tête, et ça s'est concrétisé dans ma tête vraiment lors du voyage en Haïti, et encore plus après la mort de ma grand-mère qui a suivi genre deux mois après mon retour. Et quand je suis arrivée en studio, c'était vraiment genre le dernier clou qui disait, faut vraiment que tu presses, pas traîner les pattes, mais ça c'est maintenant. J'arrête pas de comparer les trucs. J'ai pas eu d'enfant, je viens d'apprendre un nouveau mot, c'est la tocophobie, c'est la phobie d'accoucher. Il y a beaucoup de femmes qui ont cette phobie, qui sont enceintes, en fait, qui ont cette phobie d'accoucher. Et moi j'avais la phobie d'accoucher, cet album.
Parce que c'était une sorte de début, une sorte de fin pour vous?
Je voyais cet album comme peut-être une fin de carrière, genre un album de fin de carrière, mais aussi j'avais ce problème de légitimité, et j'avais aussi cette idée que ce serait jamais assez bon, j'aurais jamais assez d'informations, j'aurais jamais assez de chansons, j'aurais jamais assez de bonnes mélodies, j'aurais jamais assez travaillé les arrangements, j'aurais jamais assez. Et en fait, quand on arrive en studio, ben faut accoucher vaille que vaille. Et faut que ça sorte. La maison disque a mis les sous, tout le monde a été payé, tout le monde t'attend. Et je me souviens que il y avait ce sentiment d'urgence, cette frénésie qui a donné un beau souffle, une belle énergie à l'album, un beau dynamisme. Et je me souviens aussi le morceau Joli Bois, je l'ai pondu sur les jours, genre le matin qu'on allait enregistrer. Je me suis dit, ah merde, j'ai toujours pas écrit ce morceau. Du coup, je me suis mis à écouter un disque que j'apportais en studio en vinyle de Martha Jean-Claude, Canciones de Haïti. Et je me suis souvenue des flûtes cubaines qui accompagnent Martha Jean-Claude à travers cet album. Je me suis dit, ça va être la source pour Joli Bois, l'inspiration. Donc pour moi, c'était frénésie, et puis énormément, j'ai pleuré énormément sur cet album. Ça paraît pas parce que tout le monde dit, on dirait que t'as un gros sourire et t'as la grosse pêche. Je me suis dit, moi j'en ai chié. Je pleurais entre les prises tellement que ça devenait presque humoristique. Parce que du coup, on enregistrait en cabine et tout le monde arrive à se voir. Moi, je suis dans une cabine, Joe est dans une cabine à côté. Il y a Vincent et Ludo. Plus derrière notre cabine, il y a encore le Vincent. Et puis, on se donnait des comptes pour commencer les morceaux. Et je me souviens qu'il y avait un morceau où Vincent était comme, OK, 1, 2, 3, et tout le monde commence. Et moi, j'ai un plus gros, genre, whimper. Les gars, je pense qu'on doit arrêter. Là, ça devient genre, c'était un drame, mais j'avais des traversées d'émotions assez fortes pendant cet enregistrement.
On va écouter Dany Laferrière, qui lui aussi écoutait Martha Jean-Claude avec pas mal d'émotions.
C'est ma mère d'abord qui me revient, c'est le visage de ma mère, et puis je la vois à l'époque si heureuse, se dandinant. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup connu de moments de bonheur. C'est toujours un peu, disons, pas moyen, mais équilibré. Mais il n'y a que en entendant Martha Jean-Claude qu'elle retrouvait une sorte de juvénilité, quelque chose comme ça. J'entendais tout le temps cela, elle chantait pour elle-même. Et moi, je l'écoutais, donc je la vois toujours dans cette ambiance musicale.
Avant hier, moi, loulou, hier, ou soit, moi, veille, ou rêve, tout, non, mito, la lito. Si, n'a pas bougé, si, n'a pas mille, qui ling, to, la lito, qui ling, to, la lito, qui ling, to, la lito,
qui ling, to, la lito,
qui ling, to, la lito.
Qui lindo
la lito,
qui lindo la lito,
qui
Amanhã, moi ou é Lulu. E eu sou a, moi vem mulher. Tudo na nuit, tô lá e tô. Si é na bambuja. Si é na bambuja. Que lindo, que lindo, que lindo, tô lá e tô. Que lindo, tô lá e tô. Que lindo, tô lá e tô.
Quilombo lalito,
quilindo lalito,
quilombo lalito,
quilindo lalito,
quilombo lalito.
Difficile de donner une date, même si on sait que ce disque est du 21e siècle, à ce son, à votre voix, à la batterie, à la ligne de basse. Il y a vraiment quelque chose qui, vous disiez tout à l'heure, tout est cyclique, mais là je trouve qu'il y a une sorte de compression des époques,
oui,
dans cette chanson-là, Mélissa Lavoie.
Définitivement, ma guitare qui vient des années 70, une magnifique Axstrom en boulot, ouais. Suédoise, du coup à l'époque Axstrom était fermenté en Suède et du coup le bois il est parfait, et on avait utilisé une reverb, genre vraiment vraiment une machine à reverb à l'ancienne, mais faite aujourd'hui, et puis il y a ce son des années 50, au niveau de la rythmique, et Drew qui fait un son des années 70 aussi, mais de Trinidad, donc c'est un peu un condensé de différentes inspirations.
Juste avant, quand même une inspiration très importante, la voix de Martha Jean-Claude. Alors vous avez dit tout à l'heure, Mélissa Lavoie, vous avez parlé brièvement de ce voyage en Haïti, c'était un voyage qui venait après un autre voyage, une sorte de retour. Est-ce que vous allez à la recherche de Martha Jean-Claude? Est-ce que vous la trouvez forcément? Est-ce que c'est une fausse piste pour ce disque? Quel statut elle a, cette figure?
En fait, moi, j'ai été à Cuba avant d'aller en Haïti pour un festival de musique du monde organisé par Aimé Alfonso, qui est génial, incroyable musicienne. Et elle, c'est super marrant parce que du coup, on était en levée d'ado et Martha Jean-Claude a passé 34 ans à La Havane et personne se souvenait d'elle. Ses parents, étant afro-latino, eux se souvenaient vaguement de Martha Jean-Claude. Mais c'est fou que cette femme qui n'avait pas, qui a quand même organisé, était une des fondatrices de l'équivalent de la SACEM à Cuba, son histoire a un peu été effacée. Et je me retrouve souvent sur des projets de femmes dont l'histoire, une histoire assez importante dans un pays, où elles sont accueillies à l'époque et par la suite effacées. J'ai pu passer du temps en Italie, l'été passé à Villa Médicis pour regarder un peu Eddie and Monia Lewis. Et du coup, je me retrouve toujours sur ces personnages qu'on a tendance à... On a surtout des femmes, on efface leur histoire. Et du coup, n'ayant pas trouvé Martha Jean-Claude à Cuba, je me suis dit, bon, ben, j'irai quand même la retrouver en Haïti. Et en Haïti, c'est plus facile de la trouver, mais les gens de ma génération ne la connaissent pas. Donc, ça fait énormément plaisir d'entendre Daniela Ferrière, je sais pas, moi, je dirais une quarantaine d'années qui nous séparent quand même, qui avons eu la même expérience dans notre jeunesse de nos mères qui écoutaient Martha Jean-Claude et le poids de sa voix, l'importance de sa voix dans nos jeunesses respectives et comment ça nous a influencés. C'est marrant de savoir que j'ai un truc en commun avec Daniela Ferrière.
Ce que dit Daniela Ferrière est assez beau, il parle de la manière dont ça rendait sa jeunesse à sa mère.
Ah.
Ça la rendait plus juvénile quand moi, elle chantait pour elle-même.
Moi, je dirais oui. Après ça, ma mère chante comme une casserole. Elle le sait très bien. On se moque toujours. Dans ma famille, on se moque toujours de l'un de l'autre. C'est pas une insulte. C'est une insulte, mais c'est pas une vraie insulte. Et je sais pas si ça la rendait plus juvénile, mais je dirais oui, parce que ma mère, elle a tenté de jouer la guitare quand elle était plus jeune. Sa guitare était encore à la maison. Les chansons. Elle ne m'expliquait pas vraiment tout. Et cette chanson en particulier, elle est assez coquine. Et malgré les supplications d'entendre l'explication de la chanson, ma mère, elle dit « Non, t'es pas obligée de comprendre ce qu'elle raconte. » Et je pense que d'une certaine manière, ça rappelait aussi ma mère une Haïti qui était beaucoup plus simple pour elle que celle où elle est revenue quand on y est parti en voyage en 95, 97, 97.
Parce que vous grandissez au Canada, à Ottawa, et en effet, l'Haïti que vivent vos parents, c'est un Haïti de l'exil, c'est un Haïti qu'ils ont laissé, c'est un Haïti dans leur tête.
Oui, et qui est resté figé. Et du coup, la première fois que je rencontre Haïti, c'est à travers les yeux de mes parents qui sont... ma mère, elle pleure, mais moi, je n'ai jamais vu ma mère pleurer avant l'âge de 12 ans.
Sur le retour, dans ce premier voyage que vous faites en Haïti.
Ouais, sur le retour, moi, j'ai jamais vu ma mère pleurer, et après 34 ans, je pense que, ouais, elle n'avait pas été au pays en 34 ans, elle sort de l'avion et encore sur les marches, et puis elle pleure. Et elle pleure parce qu'il a vraiment changé, parce qu'elle ne reconnaît plus rien, parce qu'elle, tout d'un coup, toutes les peurs qu'elle avait quand on était au Canada où on disait, ah, ouais, peut-être en Haïti, mais non, pas encore, c'est pas encore prêt, ta personne se fait kidnapper, ou il y a trop de violence, ou toutes ces peurs se sont un peu condensées en elle et elle a tout de suite pris une sorte de, elle essaie de nous couver assez vite. Et en même temps, elle voulait vraiment qu'on soit fiers de notre pays. Du coup, elle voulait comme, vous voyez, ça c'est le pays sans souci, et ça c'est et on avait vraiment une explication plus formelle des grands monuments.
Toute une explication intime ou sensible.
Oui, parce que je pense que si elle rentrait dans une explication plus sensible et plus intime, elle commencerait à pleurer encore. Et je pense que c'était plus simple pour elle de tenir la tête en restant sur l'officiel. Et mes parents sont professeurs, du coup, c'est plus simple pour eux d'expliquer les choses comme si c'était des profs que de nous parler comme si on était leurs enfants.
En 2016, c'est ça, vous faites un deuxième voyage.
Oui.
En Haïti, c'est un voyage qui est très très différent parce que vous n'avez pas à être en contact ou sinon dans votre cœur et dans votre tête avec les larmes de votre mère. Vous êtes vous-même. Vous êtes d'une certaine manière seul face à ce pays-là et face à ce que vous venez y chercher. Savez-vous ce que vous venez y chercher?
Là, je suis persuadée que je vais essayer de trouver des... plus que Martha, mais plus trouver plus d'informations sur cette période de l'occupation. Et franchement, grâce à mes contacts à Paris, notamment Anne Lescaut, la cinéaste, James Germain, qui est super chanteur haïtien, qui m'envoie régulièrement, genre, ah, mais il faudra que tu contactes cette personne, il faudra que tu appelles cette personne. Si vous voulez que j'appelle quelqu'un, ils savent que je vais venir, et puis les gens, ils sont assez préparés. Il y avait une personne qui n'était pas là, même. En général, les gens étaient assez préparés à m'accueillir, mais sans savoir qui j'étais ou ce que je faisais. La seule fois où c'était marrant, c'était, je suis arrivée à Focal, qui est le grand centre d'archives à Port-au-Prince, qui est vraiment le centre d'archives pour tout le pays, de manière globale au niveau de tout ce qui est culturel. Et à l'accueil, ils sont, oui, vous voulez quoi? Et genre, je voulais parler à Babette, s'il vous plaît. Et puis, genre, mais c'est qui? Et j'ai comme, c'est Mélissa Lavo. Et c'est comme, oh, mais c'est Mélissa Lavo. Et en fait, on m'a expliqué qu'en fait, mon disque, il est bootlegué. On a ici, du coup, il y a personne qui sait vraiment, à moins d'aller sur YouTube, il y a personne qui sait vraiment à quoi je ressemble. Et du coup, les gens, ils connaissent la musique et ils connaissaient mon nom. Et ils connaissent mon père. Mon père est je sais pas, c'est en fait le type qui fait tout pour tout le monde et du coup tout le monde connaît mon père. Et c'était marrant d'avoir son nom qui revenait en fait comme gage de valeur.
Ou comme patte blanche, c'est-à-dire, voilà, est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux poser des questions? Est-ce que je peux, moi aussi, peut-être interroger ce patrimoine-là, ces racines? Vous étiez surprise, Mélissa Lavoux, qu'on puisse connaître votre musique là-bas?
Oui, beaucoup. Parce que même ma famille ne venait pas à mes concerts. Là, j'étais en Guadeloupe et mon oncle a loupé deux occasions de me voir en concert. Pas par exprès, mais vraiment parce que, voilà, c'est pas... Genre, ma famille respecte ce que je fais. Ben c'est plutôt mes petits frères, plutôt que ma sœur. Elle commence, c'est le troisième album, et c'est le seul album qu'elle a acheté, vraiment, par exemple. Donc ça a pris du temps pour que ma famille elle accepte que j'ai pas fait d'école de médecine, que j'ai pas fait un master. Ils rament à accepter. Et du coup, moi, je me disais, bon, si ma famille est pas fière, le reste, je me réfère toujours au peuple haïtien par le biais de ma famille. Et je me dis, bon, ben, les haïtiens, ils approuvent pas ce que je fais parce que ma famille approuve pas, du coup. Du coup, c'est une surprise de savoir, genre, il y a des haïtiens qui aiment un peu plus la musique que ma famille, d'accord.
Vous posiez quoi comme question là-bas, en 2016?
Tout simplement, je cherchais des chansons qui avaient été chantées pendant l'occupation et des textes qui pourraient un peu me donner une image qui pourrait un peu colorer le paysage de cette occupation pour avoir une meilleure idée, parce que je savais que je suis pas une historienne, que j'aurais jamais, et puis c'est assez difficile d'avoir certaines infos, et du coup la plupart du travail que j'ai fait c'est fait par la suite. Genre, j'ai récupéré pas mal de matière brute et après ça il fallait la déchiffrer. Les chansons que je comprenais pas, parce que je comprenais le sens littéral, le premier plan, mais je comprenais pas le énième sens derrière. Et ça, les gens étaient moins intéressés à en parler. C'est comme si il y avait une sorte de réticence à. Oui, mais où va aller cette information en fait? Ça c'est notre produit national. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Il faut pas dévoiler tous nos secrets. J'ai essayé de respecter ça autant que possible. Après ça, certaines choses, je me trouve, c'est trop beau, faut que tout le monde le sache. Faut que tout le monde sache combien c'est intelligent, combien c'est tellement élégant comme manière de procéder pour exprimer son mécontentement face à une occupation. Pour moi, c'est vachement important d'exhiber, et après ça, je suis vachement limitée, donc j'essaie de rester un peu mystérieuse aussi par rapport aux explications des chansons ou celles que j'ai eues. J'essaie de rester sur des explications qu'on arrive à trouver.
Pas les secrètes secrètes.
Exactement. Donc je suis restée sur pas mal de livres d'auteurs de la Harlem Renaissance, d'auteurs et d'artistes, dont Catherine Dunham Catherine Dunham, elle a des journaux, des carnets de bord sur son voyage en Haïti, son vécu en Haïti. Et Zora Neale Hurston, Alan Lomax. Qui étaient très très potes, et eux, Alan Lomax a carrément passé genre des années à enregistrer des field recordings,
des collectes
qui m'ont beaucoup beaucoup aidé. Et ce qui est vachement intéressant, c'est Zora Neale Hurston à côté, qui était aussi folkloriste, elle a vraiment posé des questions aux Haïtiens sur qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi le vaudou pour vous, pourquoi le vaudou, et qui a vraiment fait une collecte des histoires derrière les chansons. Donc je crois que leur travail était vachement complémentaire, peut-être par leur amitié. Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Nous avons donc été occupés militairement de 1915 à 1934, pendant 19 ans. Cette occupation, pendant les 5 premières années, a coûté la vie à un nombre assez important de paysans haïtiens. Et c'est ainsi que nous avons eu une guérilla paysanne anti-américaine. Et une guérilla qu'on appelle la guérilla Caco. Le mot Caco signifie en espagnol voleur, signifie bandit. Donc c'était le nom que l'on donnait à ces va-nu-pieds. le nom de bandit, et ce nom de bandit de Kako est devenu leur gloire peu à peu. Et alors, ils ont occupé le territoire de la guérilla, a constitué à peu près un tiers du pays, la région du plateau central, pour des raisons qui s'expliquent par un servage qui avait été instauré par les Américains pour la construction des routes, une sorte de corvée assez infâme, assez atroce. Et alors, il a fallu que l'occupant réduise par la force cette opposition armée. Alors d'un côté, vous aviez la machette, les pistolets d'arçon et même des fusils à pierre. Et de l'autre côté, vous aviez les avions et la mitrailleuse. Et malgré cette disproportion considérable du point de vue de l'armement, la guérilla qui a été menée par un notable rural qui s'appelle Charmaine Peralte, cette guérilla a tenu pendant 2 ans. Je pense que cette guérilla était la suite des guérillas de la guerre d'indépendance. Mais rien que la suite, pas la transformation. Et d'une part, l'armement était plus faible, mais d'autre part aussi, l'objectif n'était pas le même. C'est-à-dire que c'était un objectif indépendantiste, mais il n'y avait pas d'objectif social. Et puis ensuite, nous ne disposions pas, les CACO ne disposaient pas d'un réseau de transmission d'informations suffisamment rapide, alors que les autres avaient la radio et ils avaient l'avion. Le coût en vie humaine a été très lourd.
C'est la voix de Roger Gaillard dans Une nuit magnétique diffusée en 1983 sur France Culture. Mélissa Lavaux, vous le disiez, lorsque vous débarquez pour ce deuxième voyage ou retour en Haïti, vous avez en tête de vous intéresser à cette période très particulière, 1915-1934, de l'occupation américaine. Avec quelles pistes, quels indices, est-ce que vous vous intéressiez au David et Goliath? On entendait Roger Gaillard parler de la différence d'armement. Est-ce que vous vous intéressiez peut-être au fait que ce soit une révolte paysanne? Est-ce que c'était l'occupation américaine avec l'idée peut-être d'un impérialisme qui retenait votre attention. Qu'est-ce qui vous mettait sur la piste de cette période-là?
C'était Angelico, la chanson que chante Martha Jean-Claude. Et j'avais jamais compris que cette chanson était une chanson d'Auguste Lassan de Pradine et qu'elle parlait de la femme du lieutenant-colonel Coles, à l'époque Angelique Coles. Et du coup, Angelico vient vraiment de Angelique Coles, un diminutif. Et il parle d'une femme qui ne sait pas faire à manger, qui ne sait pas tenir une maison et qui elle se fait répudier par son mari, qui lui dit « Va, ne rends pas chez ta mère, mais va t'asseoir chez ta mère. »
Dégage.
Dégage. Et du coup, je me disais, c'est bizarre que Martha Jean-Claude, qui était féministe, qui était militante, qui s'est vraiment antifasciste, etc., et qui, pourquoi est-ce qu'elle s'occuperait d'une chanson qui est tellement légère
et misogyne en apparence.
Mais c'est tellement, je veux dire, c'est tellement whatever. Et finalement, quand j'ai lu, en fait, tout le monde dit, ah, mais il y a une rumeur que, je suis comme, c'est clair que c'est pas une rumeur. C'est quoi cette coïncidence qu'on parle d'une Angelico pendant qu'il y a la Angelicos et cette histoire de comparer, de faire une sorte de, moi, et du coup, moi, j'en ai fait une seconde lecture parce que je me suis dit, oui, peut-être qu'ils...
Pour être clair, en gros, cette chanson, ça disait « Bye bye l'occupation américaine via la femme de ce lieutenant, rentrez chez vous ».
Oui, mais je me suis dit, ça reste misogyne parce que du coup, il compare les soldats américains à une femme et du coup, ça par cette comparaison à une femme, il serait moindre, etc. Et je me suis dit, non, en fait, c'est pas qu'ils comparent les soldats américains à une femme. Ce qu'ils font, c'est en fait, c'est... Pour moi, c'est une relecture où la femme haïtienne qu'on appelle souvent le poteau mitant, en bien ou c'est en mal parce qu'elle se prend tout, mais c'est aussi le pilier de la fondation de la famille et de la maisonnée. C'est elle qui gère tout. C'est elle qui gère l'économie, qui gère les enfants. Elle gère tout, en fait. Elle fait semblant de donner le pouvoir exécutif à son mari, mais en fait, la femme haïtienne, elle gère tout. Et elle est vraiment importante. Et en fait, la valeur d'une femme haïtienne, d'avoir une matriarche forte, c'est tout pour les Haïtiens. Et que les Américains, ils connaissent pas cette valeur. Et du coup, ils devraient rentrer chez eux. Et pour moi, ça c'est la lecture que j'en fais. J'essaie d'en parler aussi sur scène pour dire non, c'est pas une chanson complètement horrible. Écoutez, j'ai même entendu une chanteuse haïtienne qui s'appelle d'ailleurs Haïti, mais avec deux i, qui elle parlait des hommes qui arrivent pas. Du coup, elle inverse les genres dans la chanson. Et je me suis dit, non, faut garder le truc original parce que quand même, ça en dit beaucoup. Et moi, je garde cette histoire de la Potomitan et sa valeur. Mais du coup, j'ai oublié la question. Je suis vraiment désolée, Marie.
Non, mais la question, c'était la question de l'occupation américaine. Et vous disiez, c'est cette chanson-là, c'est Angelico qui vous met sur la piste de ces recherches-là.
Oui,
de 1915-1934.
Parce que je me suis dit, en fait, s'il y avait Angelico, quelle autre chanson est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que les gens y chantaient à l'époque?
Et qu'est-ce qui bruissait de résistance par ce biais-là aussi?
Oui, et je me suis dit, on connaît l'histoire des guérillas. Haïti est forte en guérilla, mais on connaît pas beaucoup l'histoire de la musique haïtienne. Quand je parle de... Les gens, ils connaissent... des fois, ils disent zouk pour parler de la musique haïtienne. Je dis, non, nous, c'est du compas. Et puis là, il y a du rara, puis il y a du racine. Puis il y a énormément de musique haïtienne que les gens ne connaissent pas. Et il y a toute cette... Tout ce mécanisme d'avoir une musique haïtienne qui répond constamment aux politiques, qui a souvent une tradition au carnaval de faire une sorte de décompte de ce qui s'est passé l'année passée au niveau des politiques, au niveau de la culture, et d'en faire une sorte de farce, une sorte de fourbe, ou bien carrément une chanson militante qui critique, qui est une riposte. Et pour moi, je me suis dit, si c'est une tradition, pourquoi, parce que pas assez de gens ne connaissent pas cette tradition et ce dispositif d'écriture. Et c'est le livre de Gage Avril, qui est un ethnologue spécialisé en musique haïtienne, spécialisé notamment sur la collection Lomax, Alan Lomax sur Haïti, à qui j'ai parlé sur Skype. Hyper sympa, et ça fait 3 mois que je fais une interview, je le cite et j'oublie de lui envoyer un album. Mais je vais me souvenir de lui envoyer à Gage Avril un album après cette interview. Gage Avril m'a raconté tellement de... Il m'a parlé vraiment des chansons et tout, et plutôt il a commencé à me parler de tous les potins qui étaient autour des chansons. Et je me suis dit, les potins, c'est tout aussi important que les chansons en soi, et que... Du coup, les chansons que j'ai choisies, c'est vraiment... pour avoir une histoire, une sorte de vision d'Haïti à l'époque, qu'est-ce que les gens seraient en train de fredonner, sachant que les Haïtiens, ils ont tendance à reprendre des chansons du passé qui, c'est comme un langage en soi. De chanter une telle chanson à tel moment pour exprimer une telle chose. Et c'est comme ça que fonctionne aussi le créole, où une phrase peut en dire 5 selon le contexte.
Parce qu'elle est une citation, et parce qu'elle est un emprunt, et parce qu'elle a du coup tout un univers qui est référentiel. Mais en fait, à vous écouter, Mélissa Lavaux, c'est un vocabulaire de la lutte. Vous disiez tout à l'heure, Martha Jean-Claude était une militante, était une féministe, mais ce sont aussi des combats qui sont... très clairement les vôtres. La dernière fois qu'on vous a reçu à cette table-là, c'était pas exactement la même table, pas le même studio, mais non. En gros, c'était un micro et une table amie. On parlait d'afroféminisme, on parlait de combats extrêmement précis, d'engagements très précis. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette façon de critiquer l'ennemi, de le combattre sur le terrain du langage, en secret? Qu'avez-vous trouvé qui vous plaisait?
C'est une super astuce, je trouvais juste ça tellement intelligent et élégant, en fait, et stylé. Il y a une manière, comme je racontais tout à l'heure, c'est que ma famille, on a tendance à se moquer et se faire des vannes. Les Haïtiens, ils se font des vannes. Genre, moi, je vais en Haïti dans un mois pour jouer ces chansons. Je m'attends à me prendre...
Une pluie de vannes.
Et si je m'en prends, en fait, c'est un bon signe, parce que les Haïtiens, ils vont pas se moquer si c'est pas quelque chose d'important. Si tu vaux même pas la vanne, tu vaux rien. Et du coup, pour moi, c'est une manière d'être, une haïtienneté en soi. C'est l'art de pouvoir se moquer, mais de manière élégante et en secret. Et de cela, qu'est-ce que ça devient un truc qui est presque immortel, parce que les gens utilisent encore cette blague pour se moquer 100 ans plus tard, 200 ans plus tard. Pour moi, et j'adore les casse-têtes, et j'adore les jeux de mots, et dès que je vois que je comprends pas quelque chose, parce que ça me fait pas de sens quand je lis le premier sens, moi ça me pousse encore à creuser derrière. Et c'était un plaisir de travailler sur cet album au niveau de la recherche. Après ça, j'espère que j'y rends justice au niveau musical, et je m'attends à avoir la réponse d'ici un mois.
Il y a une autre figure qui apparaît, c'est celle de Franz Cassius. C'est qui?
Franz Cassius était un guitariste classique qui a vécu. Il est né quand les Américains sont arrivés. Du coup, il a vécu à travers cette occupation. Et il est super guitariste. Il a même été le prof de ah, j'ai oublié son nom. Un super guitariste américain qui a un nom français.
Marc Ribot.
Marc Ribot, merci. Merci Marie. Et Franz Cassius a eu tendance à écrire des chansons qui faisaient un peu qui rendaient hommage à la culture haïtienne dans en campagne. Du coup, on fait aussi référence au caco de manière
indirecte. Les cacos, c'est donc ce dont on entendait parler tout à l'heure, ce dont parlait Roger Gaillard, c'est les paysans qui se révoltaient justement dans cette période très courte, enfin très courte, entre 1915 et 1934.
Oui, parce que du coup, sur cet album, il y a la chanson de Jolibois qui fait référence à j'ai envie de dire Alfred Jolibois, je sais plus son prénom, qui était un journaliste qui critiquait. Mais du coup, il y a l'idée. Les Haïtiens, ils ont toujours été les plus brillants quand tout le pays se met ensemble. Il y a une grande division de classe. Il y a une classe moyenne, il y a une classe élevée, assez fortunée. Il y a aussi une classe paysanne, dont je suis issue d'ailleurs, qui s'est battue de différentes manières. Donc, au niveau intellectuel, autant au niveau du combat à main armée, les Haïtiens ensemble se sont battus contre cette occupation. Et je trouvais que c'était bien de les mettre à un niveau égal sur cet album. Donc, pour retourner sur Franz Cassius, je suis vraiment trop bavarde. Pour retourner sur Franz Cassius, ta chanson qui m'a la plus interpellée pour cette occupation, c'est Nanfonbois. Et Nanfonbois, elle fait référence au vaudou que les Américains, ils ont essayé de d'estampiller pendant l'occupation. Il y a eu différentes ères dans l'histoire d'Haïti où différents présidents ou différents occupants ont essayé d'arrêter, de faire en sorte que les Haïtiens arrêtent de pratiquer le vaudou. Mais le vaudou, c'est hyper important pour les Haïtiens parce que ça leur a donné leur liberté. En 1804, avant ça, même avec la cérémonie du bois caïman, le vaudou représente la connexion au passé, la connexion aux ancêtres, la connexion aux religions ancestrales qui viennent d'Afrique, qui ont presque été perdues avec la traversée, mais qui n'ont pas été perdues. Et pendant cette occupation, du coup, Franz Cassius, il vit ce truc de genre, non, faut qu'on travaille, faut qu'on exerce en cachette. Et Nanfonbois, c'est un peu ça. C'est une chanson qui dit, oui, je t'emmène au fond des bois, il y a de l'eau fraîche, des fleurs, il y a des tambours, on danse le yanvalou. Mais tout ça sont des éléments d'une cérémonie vaudou. Il y a des offrandes, il y a de l'eau et des fleurs, c'est des offrandes, les tambours, chaque rythme de tambour est très spécifique à chaque divinité. Et l'Yanvalou, c'est une danse qui est devenue une danse populaire, mais ses origines sont des origines de danse vaudouisant. Et il dit ça, faisons ça en cachette et on continue nos vies. Et c'est un acte militant en soi de continuer quelque chose où les gens, ils vont t'arrêter, ils vont te tuer, ils vont te torturer si tu continues à le pratiquer. Je trouvais ça beau et, encore une fois, juste élégant d'encourager les gens à continuer, peut-être en cachette, mais par une chanson qui paraît tellement simple et ne l'est pas du tout.
C'est l'invention d'un monde, des clés pour comprendre un monde, un code pour comprendre le monde à partir de la religion vaudou. Et si on n'entre pas dans ce code, on passe aussi à côté de beaucoup de choses. Mais je pense que le poids de la religion, peut-être que dans les sociétés occidentales, c'est moins prégnant, puisque les sociétés se sont laïcisées, mais c'est pas pour rien qu'on parle de culture judéo-chrétienne. quand il s'agit de l'Occident, quand on prend les systèmes juridiques, c'est quand même en référence à la religion catholique ou protestante. Voilà. Donc, les religions imprègnent les sociétés beaucoup plus qu'on ne se l'imagine. Quand c'est le cas d'une société traditionnelle comme la société haïtienne, évidemment, c'est beaucoup plus visible. Les hommes, les femmes vivent avec leurs dieux, les dieux domestiques, comme les Grecs vivaient avec leurs dieux. Voilà. Et les dieux les comprennent d'autant plus que ces dieux vivent les mêmes, ou ont vécu les mêmes péripéties qu'eux. Il y a toujours eu des histoires de rencontres, de jalousie, ou bien d'infanticide, de tout ce qu'on peut imaginer. Donc les dieux comprennent beaucoup plus les hommes. Et le grand maître, ce qu'ils appellent le grand maître, le dieu unique, il est tellement loin, d'abord il a autre chose à faire que de s'occuper des menus problèmes des chrétiens vivants, comme les êtres humains. J'ai découvert vraiment, j'avais des vagues notions, comme tout le monde, des notions générales en fait, comme la plupart des Haïtiens, mais là je suis allée beaucoup plus loin, et j'ai compris que, mieux compris peut-être les rapports hommes-femmes, mieux compris la figure d'une déesse comme Erzuli, qui a plusieurs visages. Elle est tantôt, Erzuli d'Anthor, c'est la femme, la mère qui peut tout faire pour faire survivre ses enfants. Et d'un autre côté, on a Erzuli Freda, qui est la femme, qui est du côté du désir. Et on voit que ce sont deux figures d'une même déesse. Tout dépend du moment. Et tout dépend de ce qu'on veut lui demander à cette personne, à cette divinité.
La sirène, la baleine, chapeau tombé à la mer. La sirène, la baleine, chapeau tombé à la mer. La sirène, la baleine, chapeau tombé à la mer. La sirène, la baleine, chapeau tombé à la mer. La sirène, la baleine, chapeau tombé à la mer. La sirène, la baleine, chapeau tombé à la mer. La sirène, la baleine, chapeau tombé à la mer. La sirène, la baleine, chapeau tombé à la mer. La sirène, la baleine, chapeau tombé à la mer. La sirène, la baleine, chapeau tombé à la mer.
Voilà qui ne perce pas le secret, Mélissa Lavo, parce que quand on entend les paroles de ce chant-là, c'est un chant folklorique traditionnel vaudou, pour qui ne sait rien, bah on entend juste des sirènes, des baleines, un chapeau qui est tombé dans la mer. Et peut-être que c'était votre cas en l'entendant pour la première fois, peut-être que c'était aussi le cas de Yannick Lahance en entendant cette chanson pour la première fois, qui dit dans cette archive de 2014 qu'elle s'est plongée dans la culture vaudou au moment d'écrire ce roman qui s'appelle Bain de lune, mais qu'avant ça, elle en avait qu'une sorte de sensation. Quel était votre cas à vous ?
Même chose, mais je pense que je me suis pas encore plongée assez dans le vaudou. Maintenant qu'il y a plein de chansons vaudouisantes sur l'album, parce que pour moi le vaudou, je le réitère, c'est une religion qui est vachement donné du soutien moral et aux Haïtiens, et qui a aussi servi à résister. Et pour moi, c'était du coup, j'étais obligée de replonger dedans parce que mes parents, ils sont très pieux et catholiques, et des catholiques qui n'aiment pas le vaudou et qui en ont très peur pour des raisons personnelles et de mauvaises expériences. Mais moi, j'étais intéressée par l'aspect historique du vaudou, par l'aspect mythologique du vaudou, et la sirène, la baleine qu'on entend, en fait, ça fait référence à deux sœurs en fait et qui ont le même mari, et cette idée aussi de du chapeau qui tombe à la mer, en fait c'est quand la sirène te prend, donc Erzuli Freda
qui est une divinité
du vaudou qui est la exactement c'est l'équivalent de Vénus, on peut dire.
Donc si on est possédé par Erzuli, le signe qui dit ça, c'est qu'il y a un chapeau qui tombe à la mer.
Ou si son chapeau tombe à la mer, en fait, c'est qu'on se dit « Ah, mais c'est Erzuli qui va te happer ce soir. » Et j'ai beaucoup aimé découvrir cette religion par le fait qu'il y a une vraie culture des arts des arts, en fait. Il y a la danse est hyper importante, le tambour, la musique sont vraiment importants. Une cérémonie vaudou ne se fait pas sans tambour ni sans musique. Le tambour est tellement important que la manière dont le tambour est accordé, celle qui chante sur le tambour, elle peut refuser de chanter parce que le tambour n'est pas aussi bien accordé et que c'est une insulte aux divinités que de chanter sur un tambour à main accordée. Et que je trouve qu'il y a une précision que du coup, moi, je sais pas du tout. Hein. Et que chaque divinité a son propre tambour, a son propre rythme. Que c'est vachement bien organisé. Du coup, Yannick, elle s'est vachement plongée dedans. Moi, je suis restée pour Radio Cibole, je me suis dit que j'allais pas faire des rythmes de vaudouisant parce que je m'y connaissais pas. Donc même si j'appelais, il y a des super musiciens à Paris, j'aurais pu appeler Atissou Loco, par exemple, qui est super percussionniste, mais je préférais pas parce que moi, j'aurais pas comment me poser dessus et je préférais ne pas faire quelque chose ou qui serait pas aussi juste que les albums originaux ou les enregistrements originaux ou de la musique haïtienne pure et dure parce que c'était pas ce que je peux faire le mieux. Et
en attendant, vous faites votre musique, du coup.
Du coup, je préfère faire ma musique parce que c'est ce que je fais le mieux. Et je trouve ça moins insultant que de faire un truc médiocre et de dire c'est un honneur aux ancêtres et ça serait dommage. La sirène, la baleine, qui va aussi référence, c'est le chapeau qui tombe, s'il tombe par terre, dernière chanson de l'album. Le chapeau qui tombe par terre, c'est ce président qui finit par avoir un chapeau qui tombe par terre et qui meurt parce qu'il le ramasse et on lui dit de pas le ramasser. Donc j'aimais cette ambivalence, soit tu as un très beau, t'as une communion, t'as une sorte d'envoûtement érotique, une rencontre avec une divinité, soit tu as jusqu'à la mort tout simplement. Et je trouve qu'Haïti c'est beaucoup ça. Il y a énormément d'ambivalence, il y a énormément, on ne sait pas où se trace la ligne, on ne sait pas où. Ou quand si on est déjà rentré, si on n'est pas sorti, et je trouve ça ce beau mélange est troublant mais magnifique.
Avant les Sumériens, on parlait. Ça fait 350 000 ans qu'on se parle, qu'on se chante, qu'on se compte, qu'on se raconte, qu'on discourt, qu'on se proverbe, qu'on utilise tous les moyens de la langue non écrite pour transmettre une mémoire culturelle, une mémoire religieuse, une mémoire tout court. Donc, l'organisation de la parole fait partie de la mémoire des illettrés. En tout cas, de ceux qui ne savent pas lire. Et je dis bien, c'est 350 000 ans que l'oraliture, donc la somme des expressions orales, existe et fait partie de la culture de l'humanité. Et ça fait que 5 000 ans qu'on écrit. Donc le poème simplement écrit, comme un état d'âme, un témoignage artistique, est une fraction de cette littérature. Que le chant, la chanson, la litanie, la salutation, l'homélie transmettaient. Et moi je suis plutôt en liaison avec cette partie de la littérature-là. Littérature sonore.
C'est la voix de Dick Engarn dans les entretiens à voix nue qu'il donnait ici à France Culture en 2017, qui inverse peut-être la manière dont on voit les choses habituellement. Il fait de la culture écrite une petite partie de ce grand fleuve de culture qu'il appelle oraliture. Et ce petit poème écrit n'est qu'une toute petite chose par rapport à toutes ces histoires et tous ces sentiments dits avec les mots depuis si longtemps. Dick Engarn qui nous met peut-être sur le chemin, mais il s'alavoue de la transmission. Qu'avez-vous eu la sensation de vivre, d'être avec cet album celle à qui l'on transmettait, celle par laquelle passaient les choses du passé, ou d'être celle qui engageait une transmission vers le futur, ou d'être les deux?
C'est beaucoup à porter sur ses épaules, mais pour moi la transmission est tellement importante et je me suis... On avait parti de la première vague du festival le festival du divers, je rentre de Guadeloupe et j'ai des gros trous mémoire parce que je n'ai pas dormi du tout dans l'avion.
Donc on vous remercie chaleureusement.
et du coup, il y a ce, ce festival m'a vachement traversé parce que tout le thème était la transmission et on a beaucoup travaillé sur justement des jouer autour avec moi et une musicienne qui est une très très bonne amie, Alice Carlo-Crouclis, sur l'utilisation de la radio, des écrits pour raconter une autre histoire, de faire un peu comme un remix, comme sampler comme dans le hip hop pour raconter une autre histoire avec des voix
une histoire qui serait la vôtre.
On avait 5 mouvements et c'était autour de la transmission et c'était le voyage, donc l'immigration, le mal. Il y avait une part qui était sur l'Alzheimer, d'accord, ou l'oubli, du coup c'est ce qu'on transmet avant d'oublier. Et du coup je suis restée en fait coincée sur cette idée de transmission parce que je vieillis, parce que j'ai une communication qui est assez difficile avec mes parents et ma famille en général, et je voulais me donner cet exercice de savoir ce qu'ils m'avaient donné et ce qu'ils ont oublié de me donner et ce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils m'ont donné. Et de composer avec cela et aussi avec ce que j'arrivais à trouver. Et encore ce que j'arrivais à trouver, il y a beaucoup de lacunes dedans, il y a beaucoup de trous, autant au niveau musical qu'au niveau des paroles. Et du coup, c'était un casse-tête où je retaillais les morceaux pour qu'ils correspondent ensemble, comme un patchwork. Et pour moi, du coup, la transmission, cette idée d'oralité, de transmission, ça reste avec moi parce que l'histoire, elle évolue, en fait. Elle évolue par la personne qui transmet, par la personne qui est porte-parole, parce que tout le monde a sa différente manière, son différent style de raconter une histoire. Et voici la mienne.
Merci beaucoup Mélissa Lavo. Ce Merci. Disque s'appelle Radio Civelle, il est paru sur le label No Format. Vous serez à peu près partout dans le monde à partir de cet été, donc n'importe quel endroit du monde où on se trouvera, on aura peut-être la chance en faisant quelques kilomètres de vous entendre.
On sera à Port-au-Prince, on sera à Montréal, on sera à New York, Chicago, mais aussi à Pisa, on sera à Helsinki, donc on va se porter, mais à Paris par exemple.
Vous serez le 14
oui.
et 15 juin au Tarmac. Pour un spectacle théâtral
qui s'appelle « Et parfois la fleur est un couteau » autour de la Mamiwata.
Merci beaucoup Mélissa Lavo.
Merci Marie.
Au son ce soir, c'était Stéphane Desmond, Lise-Marie Barré à la réalisation, Jeanne Aléos, Oriane Delacroix, Romain de Bec-de-Lièvre m'aident à penser cette émission. Demain, vous êtes tous invités à venir à l'Institut du Monde Arabe à Paris pour une soirée en direct sur la radio et en direct là-bas de 20h à 22h avec de nombreux artistes. Et en attendant, on peut se réécouter, se retrouver sur franceculture.fr ou en podcast. À demain.